Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être à l'écoute de Radio Foot International en cette fin d'après-midi parisienne et sur RFI bien entendu. Deuxième soirée spéciale sur RFI de Ligue des Champions et donc deuxième émission spéciale après les matchs ce soir. Pour l'instant et pour cette levée de rideau, eh bien Lyon à Leipzig et des Gones en plein doute en cette semaine cruciale à la recherche de confiance dès ce soir pour leur deuxième match européen face à l'une des meilleures équipes de Bundesliga. Cet OL, malheureux depuis la fin du mois d'août, joue très gros ce soir et surtout son entraîneur débutant, Silvinho. À Lille, des dogs pleins de mordants, nous promet leur entraîneur. La jeune équipe remodelée du LOSC doit surtout devenir efficace pour se rattraper de la défaite hollandaise. Face à elle, Chelsea et sa bande de jeunes inexpérimentés mais talentueux. Barça-Inter, l'affiche choc de cette soirée des Blaugrana, peut-être sans Messi mais avec Griezmann, le champion du monde qui fait tout pour s'intégrer et être intégré par ses nouveaux partenaires et qui reçoivent le leader du calcio, un parfum de nostalgie autour de cette rencontre qui nous ramènera dans un temps pas si ancien. Le Real aux abois, Tottenham humilié et PSG solide, les équipes qui ont marqué la soirée d'hier. Nous y reviendrons aussi parce que, il y avait notamment Bruno Salomon du côté européen de la Turquie, les 2% de territoire européen, on l'avait appris. Bonjour Bruno Salomon.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Merci d'être là, notre ami de France, Radio France désormais. Il y a aussi Étienne Moati de l'équipe. Bonjour, bonjour Étienne.
Je suis un ami aussi quand même, oui, bien sûr.
Tous vous êtes les amis, c'est ça qui est merveilleux avec la famille Radio Foot. Et puis autre ami, Bruno Constant, bonjour Bruno.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Un salut de toute l'équipe de Radio Foot à notre camarade burkinabé qui travaille désormais loin d'ici, du côté de Dakar, l'homme très intègre, Ousmane Dabo. Radio Foot, c'est parti. Ça chante du côté déjà de Leipzig. En tout cas, le Lion, lui, rugira-t-il ou montrera-t-il au moins des griffes dans le stade de Leipzig où l'attend donc un club sans histoire européenne mais déjà aguerri à la compétition et très ambitieux. L'Olympique lyonnais est en panne de victoire depuis fin août et son entraîneur a osé parler au cours du week-end de situation de crise. C'était juste après la défaite à domicile face à Nantes. Mais ce soir, l'assure Silvinho, la petite musique qui change tout va tout changer.
Champions League et Champions League, Ligue 1 et Ligue 1.
La Ligue des Champions, c'est la Ligue des Champions et la Ligue 1, c'est la Ligue 1. Pour l'instant, nous sommes complètement focalisés sur cette belle compétition. Les joueurs sont très désireux de la disputer à fond. Nous devons très bien préparer ce match contre une équipe que nous savons très forte. En fin de semaine, ce sera un autre match, un autre contexte. Et évidemment, quand vous améliorez votre performance et obtenez un bon résultat, ça se sent sur votre confiance.
Au plus rapide possible.
Ah oui, à confiance, comme on dit en portugais. Alors, oublions ce à quoi fait allusion Silvinho, c'est-à-dire le derby à Saint-Étienne et ce à quoi pensent sûrement beaucoup de Lyonnais. Christophe Diremzian, le Lyonnais de RFI, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors, en ce moment, vous êtes en territoire allemand. On sait tous qu'il y a une épée de Damoclès au-dessus de la tête de Silvinho après cette contre-performance. Non seulement les contre-performances au moins en championnat, mais aussi, on se souvient, face au Zénith sur la scène européenne, il y a deux semaines, qui avait réussi son équipe à sauver ce match nul 1-1. Comment ils vous sont apparus, les Lyonnais que vous avez vus et entrevus hier, Christophe, est-ce que il y a des doutes dans l'air ou non?
Si on voit déjà la tête de Silvinho hier en conférence de presse, moi il me faisait penser, et vous avez rappelé la métaphore, une épée de Damoclès qui est prête à agir et faire en sorte que la tête va être tranchée de Silvinho et qui va évidemment tout faire pour obtenir la grâce dans les deux prochains matchs. Moi, j'ai senti très tendu. Honnêtement, Silvinho, il n'était pas, évidemment, il a éludé la plupart des questions sur son avenir pour se concentrer sur ce qui allait se passer demain et évidemment pas lors du derby dimanche. Mais bon, honnêtement, là, on le sent pas du tout serein. Il sait qu'évidemment, il est très attendu sur les deux matchs, à commencer par celui-ci. Moi, je pense qu'effectivement, alors on ne sait pas trop ce qui va se passer ce soir, mais la portée symbolique qu'aurait éventuellement aussi, ou pas, une défaite face à Saint-Etienne au derby dimanche, à mon avis, pourrait lui coûter extrêmement cher si d'aventure ça ne se passe pas très bien ce soir. Il reste confiant. Ceci étant, alors vu la longue expérience des Lyonnais en matière européenne, on sait qu'ils peuvent effectivement s'en servir pour se relancer globalement, alors à la fois sur la scène européenne, mais après sur la scène domestique aussi. C'est déjà arrivé. Bon, maintenant, on va voir effectivement ce qui peut se passer. Il faut qu'ils aient effectivement le ressort pour rebondir face à une équipe de Leipzig qui, évidemment, va pas leur mener la vie facile. Mais après, effectivement, est-ce que ce soir, en fonction du résultat, est-ce que le capital confiance qui est déjà extrêmement amenuisé du côté des Lyonnais va pas fondre complètement comme neige au soleil? On verra. Ça pourrait quand même porter un coup sévère à la confiance des Lyonnais face au derby. Mais moi, je pense quand même que les deux matchs restent essentiellement liés. Ils sont importants. D'ailleurs, Jean-Michel Aulas l'a rappelé lors de l'interview qu'il a donné à l'équipe cette semaine. On fera le point lundi et on verra effectivement ce qui se passera à ce moment-là. Mais très honnêtement, si ça se passe très mal sur les deux matchs, j'ai pas le sentiment que Silvinho va encore rester très longtemps l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais.
Oui, en tout cas, ce match risque de donner le là de ce qui se passera jusqu'en fin de semaine. Alors, vous parlez, Christophe, de longue expérience sur la scène européenne, mais Étienne Moati, on a eu l'impression que ça leur manquait l'autre jour quand même dans leur propre jardin lorsqu'ils ont reçu le Zénith Saint-Pétersbourg.
Oui, il y a l'expérience et puis il y a le talent aussi et l'organisation. Aujourd'hui, le talent manque peut-être un tout petit peu à cet Olympique Lyonnais.
Oui, leur manquer Jason Denayer derrière et Maxwell Cornet qui excellait jusqu'à présent. Il aimait bien la scène européenne, on va dire.
Il leur manque peut-être un peu de talent et il leur manque beaucoup de leaders dans cette équipe. C'est un problème récurrent chez les Lyonnais ces dernières saisons où il manque vraiment une âme, un leader, quelqu'un capable de remobiliser. Et il y a en effet Denayer qui peut être celui-là, mais il n'est pas là ce soir, donc ça fait quand même beaucoup de soucis pour Lyon.
Et Anthony Lopez,
mais enfin il est loin, il est en sans but, donc c'est compliqué d'être un vrai leader quand on est gardien de but dans une équipe. Évidemment, il y a un vrai danger pour Silvinho. Maintenant, dans la tradition lyonnaise, on vire quand même très peu un entraîneur en cours de saison. Le seul souci, c'est que normalement c'est Jean-Michel Aulas qui choisit les entraîneurs, mais pas celui-là. C'est Juninho donc qui l'a choisi, donc évidemment ça change la donne et on sent de vrais doutes de la part de Jean-Michel Aulas sur le choix qui a été fait de Silvinho. Donc je pense que pour la première fois, en effet, en cours de saison, il est possible qu'il y ait un changement s'il y a vraiment deux matchs très difficiles cette semaine.
Bruno Salomon, est-ce que vous voyez quelles peuvent être les ressources de cette équipe lyonnaise pour vous ce soir?
À un moment donné, l'Olympique Lyonnais, il n'y a pas que l'entraîneur. Je suis désolé. On a fait le procès de Genesio. C'était à peu près les mêmes joueurs qui étaient sur le terrain. On est en train de faire le procès de Silvinho. C'est toujours les mêmes joueurs sur le terrain. C'est-à-dire que les Lopez et consorts, parce que tu parlais tout à l'heure, on peut pas être un leader, mais à un moment on peut prendre la parole. C'est bien beau de toujours prendre la parole après. Du côté de Lopez, par exemple, dans la cage, c'est quand la catastrophe est passée. Ah oui, le train nous est passé dessus, on n'était pas bien. Il y a un moment, ils aiment pas se faire violence. Cette équipe lyonnaise, il faut que ça brille, il faut qu'il y ait du clinquant. Moi, l'an dernier, je me rappelle avoir vu un Genesio capable de parler à son équipe et de bousculer, pousser le Paris Saint-Germain dans le précipice sur une rencontre.
C'est dommage qu'il n'ait pas pu le faire avec les supporters, c'est
ça ? Oui, mais si Silvinho n'est pas capable de transcender son équipe sur la Ligue des Champions, surtout quand t'as une poule pareille, parce que quand même, il faut aussi le rappeler, ouais. Le Zénith, non mais on est sur du Benfica, Zénith Saint-Pétersbourg, et Leipzig, on est sur l'Europa League, on n'est pas sur la Ligue des Champions.
On estimait qu'ils avaient eu la chance
à peu près au groupe de l'année dernière sans Manchester City.
Voilà, c'est donc bilan des opérations, équipes. Tu dois sortir de ça. Tu dois sortir de ce groupe, Bruno.
Oui, bien sûr.
On estimait au tirage au sort qu'effectivement c'était une poule abordable, on va dire.
Mais est-ce qu'ils ont envie de se faire violence? Est-ce qu'ils ont envie de sauver leur entraîneur? Est-ce qu'ils ont envie d'y aller? Et là, sur les deux matchs qui viennent, Leipzig et Saint-Etienne, c'est des matchs au cœur, c'est des matchs au trip, c'est des matchs au bide. C'est si tu y vas comme ça, tu as la technique. Les Dembélé et autres, ils ont de la technique. Faut pas, voilà, exagérer, avoir aussi. Là, c'est ce que t'as dans le ventre et ce que t'as envie de faire. Est-ce que t'as envie de balancer déjà l'institution lyonnaise? Est-ce que t'as envie déjà de te mettre dedans avec ton équipe ou est-ce que t'as envie de te faire mal? Je suis pas sûr qu'ils aient très envie de se faire mal.
Bruno, les ressources en hommes sur le terrain, qui pourrait ce soir bousculer tout ça? Parce que par exemple, vous avez cité Aouar, en ce moment, on le reconnaît pas.
Ben c'est ça, il faudrait déjà que les joueurs qui sont présents, qui étaient déjà présents la saison passée, retrouvent un peu leur niveau. et des joueurs comme Aouar qu'on avait porté très haut, dont on parlait peut-être intégrer l'équipe de France, bah, qui retrouvent leur niveau, qui se comportent un peu plus en, pas en patron, mais au moins en leader technique, qu'un Dembélé soit beaucoup plus décisif, parce que il y a ce match contre Nantes, moi je ne les ai pas trouvés catastrophiques contre Nantes. Le problème c'est qu'ils ne marquent pas sur leurs occasions franches, donc ça fait toute la différence, on le sait. Et ça manque de justesse technique, ça manque d'un peu de tueur devant le but, ça manque de leader, oui, un peu de beaucoup de choses, mais effectivement, je suis d'accord avec Bruno, et pas seulement parce qu'il s'appelle Bruno, mais je trouve qu'à un moment donné, ça, c'est peut-être aux joueurs aussi de prendre le pouvoir, et que Silvinho, il est là depuis quoi, 2 mois. Certes, le message peut-être ne passe pas encore, mais il va passer, il faut lui donner du temps. Et je pense que c'est aux joueurs surtout de prendre leurs responsabilités. Pour l'instant, ils ne les prennent pas.
Alors Christophe, eh bien, en face, il y a quand même une équipe qui a récemment fait irruption sur la scène européenne, qui a aussi remporté son premier match. Alors elle l'a remporté en plus à l'extérieur, à Lisbonne face au Benfica. Et ce qu'on peut remarquer, c'est que cette équipe, quand même, elle s'est vite aguerrie, elle a vite appris sur la scène européenne, cette équipe du RB Leipzig. Et c'est d'ailleurs ce que vous a confirmé hier à votre micro le milieu de terrain jeune français Ibrahima Konaté.
Les 2 premières saisons, on n'était pas habitué à le championnat et une compétition européenne avec des matchs tous les 3 jours. Et je pense que ces 2 saisons, elles nous ont permis d'apprendre et de gérer le temps de repos et les matchs tous les 3 jours. Et je pense que toute l'équipe a pris en maturité et on a appris à mieux jouer ensemble. Et je pense que c'est ça les qualités qu'on a engendrées depuis ces 2 dernières années.
Un joueur qui n'a que 20 ans, beaucoup de jeunes dans cette équipe, Christophe Diremzian, mais emmené quand même par un grand nom qui est Timo Werner.
Oui, effectivement, Timo Werner, c'est un peu le porte-étendard de ce RB Leipzig. Ça fait maintenant plus de 3 ans qu'il est dans le club. C'est l'international en plus phare de la Mannschaft. Hein. Il a quand même déjà marqué 10 buts en 27 sélections avec les sélections allemandes. Il a fait très mal, effectivement, au Benfica. C'est lui qui porte cette équipe qui, comme l'a rappelé Ibrahima Konaté, oui, effectivement, elle est extrêmement jeune. C'est un petit peu le miroir de ce qu'est l'Olympique Lyonnais pour l'instant. C'est-à-dire que c'est une équipe jeune, mais qui a l'envie, qui sait déjà bien s'organiser, à qui on fait confiance et qui sait trouver les bonnes solutions. Et du coup, bah, effectivement, elle est pour l'instant un petit peu l'équipe surprise de ces débuts de Ligue des Champions et pourrait effectivement aller extrêmement loin. Elle est en plus, parce qu'il faut quand même se rappeler que la RB Leipzig a 10 ans hein, d'existence, c'est une équipe qui progresse aussi en Bundesliga. Elle a perdu d'ailleurs la première place simplement par sa première défaite en Bundesliga ce week-end face à Schalke 04, mais c'est en plus une équipe qui progresse au niveau de sa notoriété. Souvenez-vous, il y a encore quelques années, lorsque le Leipzig, et d'ailleurs ça continue un petit peu d'ailleurs, mais dans de moindres proportions, mais lorsque Leipzig va faire un petit peu le tour de la Bundesliga, ils sont parfois très très fraîchement accueillis, et c'est un euphémisme, parce qu'ils sont un peu comme une équipe de parvenus, oui. De gens qui ont été créés un peu de toutes pièces. Ça va un petit peu mieux maintenant, puis bah finalement ils font du bien hein, à cette Bundesliga, la notoriété du championnat allemand, hein, c'est effectivement très important. Ils ont effectivement très peu d'expérience européenne, c'est leur 3e saison continentale et la 2e seulement en Ligue des Champions, et en plus ils ont un entraîneur qui est parfaitement à son affaire, hein, Julian Nagelsmann, qui en plus connaît un petit peu l'OL parce que l'an passé il entraînait Hoffenheim et Hoffenheim a affronté l'Olympique Lyonnais en phase de poule de la Ligue des Champions, donc il sait parfaitement à quoi s'attendre, même si effectivement les Lyonnais ont un petit peu changé de leur côté, mais c'est vraiment l'équipe qui fait certainement le plus plaisir à voir et qui a certainement un bel avenir si elle poursuit dans cette voie.
Bruno, cette équipe c'est un épouvantail.
Oui, c'est un épouvantail, et en fait je voulais rebondir sur ce que disait Christophe. En fait, c'est vrai que si on fait le parallèle, Lyon et finalement cette équipe de Leipzig, ça se ressent un tout petit peu sur le côté la jeunesse, etc. Sauf que Leipzig a Timo Werner. Lyon ne l'a pas. Ce qui veut dire, ce que je veux dire par là, c'est que tu n'as pas cet international, une fois ça peut être exceptionnel, et puis une fois c'est, écoutez, voilà, j'ai autre chose à faire, faut que je fasse une chanson.
C'est un international.
J'ai un disque à faire. J'ai 2-3 trucs à enregistrer. Non mais c'est
avec les Pays-Bas, il est pas mal quand même.
Mais avec Lyon, Bruno. Oui, mais il faut que ça soit avec Lyon.
On parle d'un international.
Werner, tu vois, Benfica, c'est lui qui va faire le travail. Là, pour l'instant,
c'est surtout que Werner, il est entouré par un collectif qui est magnifique à Leipzig. Il y a une vraie équipe, il y a une vraie cohésion.
Il y a certains Français, Nkunku.
Nagelsmann, c'est sans doute le futur entraîneur du Bayern, tout le monde le dit en Allemagne. C'est en tout cas le prochain grand entraîneur allemand qui va soit prendre un grand club européen, soit récupérer le Bayern. Donc il y a vraiment une équipe et un collectif qui a été construit, et c'est pas le cas encore de Lyon, c'est ça la différence.
Enfin, il y a quand même des joueurs à Lyon. Tu parles de Werner, ça c'est vrai que c'est un vrai bon et bon avançante. Mais enfin, à Lyon, on a été aussi recruté Dembélé, c'est-à-dire que les clubs anglais veulent aussi, et donc qui a été conservé par l'OL, qui a une grosse valeur marchande, qui a un gros potentiel. Il y a évidemment Memphis Depay. Je pense que, et vous avez exonéré tout à l'heure un petit peu trop, à mon avis, donc Silvinho de ses responsabilités. On a beaucoup critiqué Bruno Genesio. Il y avait des hauts et des bas donc dans le jeu lyonnais la saison dernière. Aujourd'hui, il n'y a plus que des bas. Il n'y a plus du tout de fond de jeu.
On avait l'impression qu'il y avait plus d'âme quand même.
Genesio, donc, l'année dernière, on était quoi, au bout de 3 ans de Genesio. Là, on est au bout de 2 mois. Oui, même pas 2 mois encore.
Pour avoir suivi un petit peu la préparation, les matchs de préparation de l'OL, c'était catastrophique. Mm-hmm. Donc, ils ont fait un peu illusion donc sur les premiers matchs.
2 premiers matchs.
Voilà. Et derrière, ça s'est effondré. Quand vous regardez aujourd'hui jouer l'OL, il n'y a rien. Il n'y a plus rien. Donc, il y a un vrai souci à Lyon. Et aujourd'hui, donc, pour être tout à fait clair, entre les deux équipes, il y a un vrai favori, c'est Leipzig. Et Lyon semble loin derrière.
Et pour expliquer un petit peu aux auditeurs aussi, Leipzig, il faut le savoir, si vous faites un peu des matchs de U17, U19 en France, ils sont partout. Il y a des scouts de partout en France, en Europe. Il y a un très très gros travail de scouting depuis des années.
De repérage de joueurs,
effectivement. Et c'est comme ça qu'on retrouve une colonie française déjà installée là-bas. Il y a certains clubs français qui se sont fait
souffler
des joueurs.
Ils passent
des
fois par Salzbourg, hein, puisque voilà, les deux clubs sont
liés. Donc il y a un gros travail là-dessus. Et c'est le travail qui paye désormais avec cette Ligue des Champions.
Christophe, on vous retrouve donc dans la soirée spéciale sur RFI tout à l'heure à 20h57. Et on espère que vous aurez au moins du beau spectacle, quel qu'en soit le vainqueur.
On l'espère tous, évidemment, dans cette Red Bull Arena qui sera normalement pleine. Hein, plus de 40 000 personnes attendues.
Ouais, en Allemagne.
Un fort joli stade, ma foi.
D'accord. Merci beaucoup, Christophe. Et donc, à tout à l'heure pour cette soirée spéciale à partir de 20h57, heure de Paris sur RFI. On continue. On a pris la direction du nord de la France. On avait un petit peu d'air de cornemuse, on aurait dit, mais bon, ça faisait un peu militaire aussi. Lille, où l'on retrouve Hugo Moissonnier. Bonjour Hugo Moissonnier.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Il a 20 ans.
Il a 20 ans, oui. Happy birthday Hugo Moissonnier. C'est pas moi qui vous le dis, c'est un prix Nobel qui vous le souhaite. En direct.
Ah oui, d'accord.
Hein, vous avez reconnu sa voix, à Bob Dylan.
Oui, je reconnais sa voix. Bah, écoutez, merci à lui, merci à vous. On peut souhaiter également un bon anniversaire à Tammy Abraham. Je sais pas comment on prononce bien, l'attaquant de Chelsea dont on reparlera dans quelques instants, qui est également né un 2 octobre.
Comme quoi, grande date.
22 ans pour lui.
Oui.
Moi, un petit peu plus.
En tout cas, plus sérieusement, nuit donc de foot européen dans le stade Pierre Mauroy de Lille qui attendait ça depuis 7 ans, en tout cas les supporters. On attend aussi 3000 supporters des Blues du côté de cette affiche, donc Lille-Chelsea. Les Dogs sont-ils lâchés prêts à l'attaque pour tenter de défendre leur cage pour leur première sortie européenne sur leur pelouse? L'équipe de Christophe Galtier, on s'en souvient, va essayer de faire mieux que sa sortie du côté d'Amsterdam, battue 3-0 par l'Ajax. Mais bon, c'était l'Ajax, on peut dire. Évidemment, donc Christophe Galtier a identifié les points faibles de son équipe et c'est apparemment ce qu'il faut faire.
Sur l'entame de match, quand un adversaire commence à pousser fort, une équipe qui a l'habitude de ce niveau-là et qui a un certain nombre de matchs, avec un certain nombre de joueurs qui ont vécu ce genre de match-là, ont une capacité à résister sur les temps forts de l'adversaire. Tout simplement. Et un second point aussi, mais ça rejoint un peu ce que nous avons vécu à Amsterdam, cette capacité à être très chirurgical sur les transitions et les situations de but, être très chirurgical.
Chirurgical, ça veut dire réaliste aussi, hein, peut-être Hugo Moissonnier, parce qu'on se souvient de beaucoup d'occasions perdues au match aller, même si Lille a encaissé 3 buts.
Oui, oui, bah, il faut être efficace devant comme derrière. Finalement, être chirurgical, ça veut dire ça. Dans l'esprit de Christophe Galtier, effectivement, il y avait eu des occasions face à l'Ajax lors du premier match de cette campagne pour les Dogs. Onana, le portier camerounais de l'Ajax, avait été très bon, certes, mais les attaquants lillois avaient été trop inefficaces. 17 tirs tentés contre l'Ajax pour 0 but à l'arrivée, c'est insuffisant. Et cette inefficacité offensive, elle poursuit un peu Lille depuis cette sortie à Amsterdam. Alors certes, Lille n'a pas perdu hein, depuis ce match face à l'Ajax, mais Lille peine à marquer des buts, et ça s'est notamment vérifié encore le week-end dernier à Nice. Match nul un partout, et Christophe Galtier avait été assez dur après la rencontre, assez dur avec ses attaquants. Certes, il y a Victor Osimhen, le Nigérian, qui est vraiment la révélation de ce début de saison en France. 6 réalisations, co-meilleur buteur de la Ligue 1. Mais il faut faire mieux en attaque. Alors peut-être que justement avoir découvert la Ligue des Champions va permettre aux Dogs, aux Lillois, de se libérer devant leur public ce soir, eux qui pour l'instant font carton plein devant leurs supporters cette saison.
Etienne Moati, est-ce que l'excuse de la jeunesse est pour vous une bonne excuse ? Ou c'est aussi le projet lillois, on les a vus l'année dernière très flamboyant en Ligue 1, mais finalement c'est pas du tout l'équipe qu'on retrouve en Ligue des Champions, même si c'est celle qui s'est qualifiée.
Ouais, on peut pas quand même écarter l'excuse de la jeunesse, parce que c'est quand même d'abord donc un club qui a peu d'expérience dans les coupes européennes en général. Mmh. C'est un effectif est extrêmement jeune, et c'est un effectif qui est sans cesse renouvelé parce qu'on
tous les
on
ans.
Connaît donc le projet économico-sportif et plus économique que sportif qui est à Lille, donc où on fait venir de jeunes joueurs avec une forte valeur donc ajoutée. En tout cas, c'est ce qu'on espère, et on revend derrière. On parle donc de l'inefficacité offensive de Lille. Ils ont quand même perdu Pépé, donc qui était évidemment donc leur meilleur joueur, et de très loin, vendu 80 millions d'euros. Donc voilà, il y a quand même beaucoup de raisons objectives pour trouver quelques excuses aux Lillois. Ils ont toute l'allure d'un club français qui parvient in extremis à se qualifier pour la Ligue des Champions, et qui fait pas de la figuration, mais en tout cas qui a quand même beaucoup de mal, et qui va avoir beaucoup de mal donc à figurer dans cette poule.
Bruno, qu'est-ce que vous diriez sur cette équipe de Lille ? Est-ce qu'elle peut vous surprendre ? On a entendu Jonathan Bamba dire il faut élever notre niveau de jeu. On a très envie de la disputer, cette compétition.
Ouais, oui, après, face à l'Ajax, ils n'ont pas été ridicules, moi, je trouve, non, dans le jeu. Ils se sont créés beaucoup d'occasions. On en revient toujours à
score,
ce qui pêche toujours en Ligue des Champions, c'est l'efficacité devant le but. S'ils arrivent à amener
c'est
ça, je pense qu'ils peuvent créer des soucis à Chelsea. Chelsea, c'est une équipe qui ne sait pas fermer le jeu, qui ne sait pas forcément très bien défendre en bloc bas. Qui va laisser des espaces, parce qu'en plus ils sont sous pression, ils ont perdu le premier match à domicile chez eux, enfin face à Valence, un Valence qui était en crise, donc eux aussi sont déjà sous pression. Mais il faut jouer, je pense qu'il faut qu'ils prennent ça comme une compétition, ou se faire plaisir et jouer leur football et avoir aucun regret. Leur objectif, c'est de créer l'exploit pour une lutte de première place, à minima accrocher cette troisième place qui serait synonyme d'Europa League pour poursuivre l'expérience et l'aventure. Mais s'ils sont quatrième, on va pas leur en vouloir.
Hugo, c'est ce qu'il a dit aussi hein, hier, Christophe Galtier. Hein, jouer.
Ah oui, le discours, il est extrêmement positif. Jouer. Il l'a répété 4 fois en quelques secondes. Jonathan Bamba est également en conférence de presse. L'attaquant lillois a dit qu'il fallait ne pas nourrir de complexes. Il fallait aborder ce match avec enthousiasme. C'est bien normal. Hein, c'est quand même la Ligue des Champions. Il ne faut pas forcément nourrir de complexes face à une équipe de Chelsea plus expérimenté en général, même si à proprement parler dans son effectif il y a également à redire hein, sur son réel vécu cette équipe de Chelsea, sur actuel, on va y venir. Donc oui, aborder ce match avec enthousiasme. Et alors, l'excuse de la jeunesse, lui, il ne l'aime pas trop hein, quand même, Christophe Galtier. Il reconnaît que c'est une partie de l'explication de la faillite, le mot est un peu fort, de son équipe à Amsterdam. Mais déjà, après le match face à l'Ajax, il avait dit qu'il n'est pas venu là pour prendre des leçons, il n'est pas venu là pour apprendre, il est venu là pour jouer au football. Et il avait vraiment demandé à ses joueurs, ou plutôt pointé les limites de ses joueurs, trop tendres en défense, trop inefficaces devant. Encore une fois, il a repointé ses limites offensives ces derniers temps. Donc voilà, cette excuse de la jeunesse, elle ne va pas tenir très longtemps à ses yeux.
Oui, Bruno.
En fait, il est Christophe Galtier. Lui aussi, il est inexpérimenté. Donc non, mais c'est vrai.
Il n'est pas jeune, mais il est inexpérimenté.
Il n'est pas tout jeune, mais il se fait aussi ses premiers pas en Ligue des Champions. Après, derrière. Moi, j'avais aimé cette équipe à Amsterdam. Elle était maladroite, elle était un peu gauche.
C'est vrai qu'elle a joué.
Mais elle y est allée. Voilà. Et, ouais. Et tout ce qu'on lui demande aujourd'hui contre Chelsea, vas-y, recommence. Remonte sur le vélo, casse-toi la figure, ou peut-être tu vas réussir ta ligne droite. Ça peut passer, en fait. Oui. Parce que cette équipe de Lille, pour l'avoir.
Il y a certains joueurs qui peuvent, en plus.
Voilà. Il y a, voilà, les Osimhen, etc. Les fameux joueurs à valeur ajoutée. Lui, il va falloir qu'il fasse deux matchs de Ligue des Champions. Et c'est bon. Là, ça fait 45 millions d'entrées. Et vous avez Gérard Lopez qui fait des tours sur la place de Lille. Voilà, c'est ça. Mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que de toute façon,
on serait capable. Hein.
Ils ont deux trois joueurs. Ah, oui, si le chèque arrive, c'est sûr qu'il va dire oui. Mais bon, en tout cas, ils ont, moi, je pense, le matériel pour faire mal. En plus, il y a encore des joueurs qui sont en convalescence. Hein, Yazidche qui sera peut-être pas titulaire ce soir, mais si tu le fais rentrer, il y a vraiment là aussi une valeur ajoutée. Ikoné n'est pas encore à 100%. Il peut se passer quelque chose. Après, Galtier, c'est aussi à lui d'embarquer. Moi, Galtier, je lui ai toujours reproché une chose. Je le trouve trop respectueux. C'est un super entraîneur. C'est peut-être le meilleur entraîneur français des 10 dernières années. Parce que ce qu'il a fait à Saint-Etienne, ce qu'il fait à Lille, c'est formidable. En revanche, il a toujours ce côté, Monseigneur, comment allez-vous? Quand il fallait affronter le PSG, c'était, oui, pas de problème, allez-y. Et ça faisait 5-0, 3-0, 4-0. Parce qu'il ouvrait le jeu, il essayait. Il y a un moment, il va falloir quand même réfléchir à ce que tu fais en tant qu'entraîneur. Que dire à tes joueurs, jouer, peut-être faire quand même proposer quelque chose à Lampard en face. Ouais. Je sais pas.
Après, pour revenir sur l'expérience, par exemple, Bruges, hier, il n'y a pas le problème de l'excuse de la jeunesse. Ils ont fait un match magnifique sur la pelouse du Bernabéu face au Real Madrid. L'Ajax, l'année dernière, n'avait pas l'excuse de la jeunesse. Même si c'est un club qui est habitué.
C'est plutôt l'excuse de l'inexpérience.
Voilà.
En tout cas, on va l'écouter, Frank Lampard, parce que ce Chelsea, alors auréolé lui de son titre de Ligue Europa, mais c'est pareil, il a autant changé pratiquement que Lille. Non seulement il a plus Eden Hazard, mais il a plus le même entraîneur. Beaucoup de choses ont changé. En tout cas, Frank Lampard, évidemment, est très prudent après la défaite enregistrée à domicile face à Valence.
Lille est une équipe qu'on craint beaucoup, en particulier sur le plan offensif, car ils ont beaucoup de vitesse et de qualité. Ce n'est pas une rencontre à qui tout double, parce qu'il restera encore 4 matchs ensuite. Il faut prendre du recul, même si nous n'avons pas pris le moindre point lors de notre premier match. Nous allons devoir être prêts pour essayer d'aller chercher quelque chose. Évidemment, les joueurs en ont pleinement conscience. Espérons que nous avons engrangé la confiance suite à nos deux derniers résultats, deux solides victoires qui pourraient nous servir contre cette équipe. Il faut être persuadé que si nous évoluons à notre meilleur niveau, nous allons décrocher le résultat souhaité.
Plein d'allants, Frank Lampard, évidemment, et heureusement d'ailleurs. Bruno, cette équipe de Chelsea, elle est. Alors, il y aura peut-être pas N'Golo Kanté, c'est encore incertain, mais c'est surtout, effectivement, on l'a beaucoup raconté dans Radio Foot et grâce à vous notamment, cette montée des jeunes parce qu'on ne pouvait pas recruter. Qu'est-ce que vous en pensez pour ce soir?
C'est une équipe qui est toujours en forme d'apprentissage et on l'a vu encore sur le week-end dernier. Ils ont enfin emporté une victoire à domicile en Première Ligue. Ils ont enfin fini un match sans encaisser de but. Donc voilà, on est quand même fin septembre. C'est une équipe qui apprend toujours, qui est extrêmement rajeunie. Ça, c'est évidemment, on l'a dit, l'interdiction de recrutement. C'est peut-être un mal pour un bien, parce que pour une fois,
on découvre certains
le club s'appuie sur l'académie qui est la meilleure d'Angleterre depuis quasiment 10 ans. Et c'était des joueurs qui étaient prêtés un peu partout en Europe et qui n'avaient jamais leur chance avec les Blues. Et voilà, mais c'est un jeune entraîneur aussi, Lampard, 41 ans, une seule année sur un banc de touche, c'était à Derby County en D2 anglaise. Donc voilà, c'est un profil d'équipe qui est abordable pour Lille. Et puis en plus, c'est une équipe très très joueuse. C'est pas une équipe, encore une fois, qui va défendre. Donc moi, je pense que ça va être un match spectaculaire et on ne devrait pas s'ennuyer.
Hugo, que vous ont dit les supporters anglais que vous avez peut-être croisés dans Lille?
Alors je les ai surtout vus entre aperçus, c'est assez surprenant un supporter anglais puisqu'à 14h il a déjà devant lui une bonne pinte de bière fraîche.
C'est un cliché.
Non, non, il les a vus.
C'est
vrai que les supporters de Chelsea se tiennent pas toujours bien quand ils sont en déplacement en Coupe d'Europe, on le sait au Parc des Princes.
Mais ils le savent à Lille, Hugo.
Oui, et puis il faut quand même préciser que à Lille, on boit beaucoup de bières belges. Elles sont fortes, les bières belges, plus fortes que la bière anglaise au pub habituelle. Mais voilà, non, mais c'est parti du patrimoine du Nord aussi. Ça fait partie de la culture nordiste. La bière belge, en tout cas, les supporters de Chelsea, oui, bah j'espère qu'ils sont un petit peu plus qu'ils ont un peu plus d'allant que leur entraîneur Frank Lampard. Là, on l'a entendu. Bon, bah voilà, il a sorti à peu près tous les éléments de langage qu'on sort dans ces moments-là. C'était l'un des rares moments dans la conférence de presse lors duquel il a pu parler de Lille. Le reste du temps, on l'a un peu interrogé sur tout et n'importe quoi, avec des réponses assez pas très intéressantes. C'était pas un très grand moment hier, la conférence de presse de Chelsea. Azpilicueta également derrière. C'était pas très intéressant non plus. C'était assez surprenant cette interaction. Les journalistes anglais étaient surtout intéressés par le cas de Ross Barkley. Alors peut-être que Bruno Constant peut nous éclairer là-dessus. Ross Barkley qui aurait eu des problèmes extra-sportifs. Alors ça intéresse beaucoup apparemment nos confrères anglais, un peu moins le football et le match de Lille.
Ouais, bah oui, il y a encore une histoire anglaise. Il était aperçu, photographié au petit matin, le lendemain de match, accompagné par des policiers à un taxi parce qu'il tenait à peine debout.
C'était le lendemain de match.
Ouais. Oui, mais bon,
il fêtait le match.
C'est jamais très, très classe. Et puis les tabloïds adorent ce genre d'histoire.
Ouais. Bon, Hugo, on vous souhaite un bon match du côté donc, du stade de Lille Pierre Mauroy. Et on vous retrouve dans Radio Foot International tout à l'heure et surtout dans la soirée spéciale sur RFI à partir de 20h57. Merci beaucoup, Hugo.
Avec plaisir, à tout à l'heure.
À tout à l'heure. Et on part, je suis sûr que ça va vous plaire, Étienne, on part vers la Catalogne, vers l'Espagne.
Le Barça, champion d'Europe en titre pour l'instant, qui est éliminé. C'est terminé, l'Inter est qualifié. L'Inter qui n'a perdu que 1-0. L'Inter est en finale de Ligue des Champions. La défense ultra rigoureuse, ultra millimétrée de l'Inter a eu raison des velléités barcelonaise, et le héros c'est lui, José Mourinho. Incontestablement, c'est un maître.
Stiamo facendo dei paragoni.
Il ne s'agit pas de faire des comparaisons avec le passé, mais nous savons ce que l'Inter a fait cette saison-là. C'était quelque chose d'incroyable pour Mourinho, qui a dirigé cette équipe, et pour ce qu'ils ont fait cette année-là. Il est impossible de faire des comparaisons avec aujourd'hui. Ce sont des périodes différentes. Maintenant, nous sommes au début d'un chemin qui, nous l'espérons, nous conduira à grandir et à avoir l'ambition d'apporter joie et satisfaction à nos supporters. Je le répète, j'ai un grand respect pour ce qui a été fait en 2010 par ces joueurs et l'entraîneur. Ils ont fait quelque chose d'extraordinaire et ce sera inoubliable dans l'histoire du football.
Nella storia del calcio. Voilà, les commentaires étaient de 2010, mais les commentaires par contre de Antonio Conte, c'était hier, puisqu'il est maintenant à la tête de l'Inter Milan. On se souvient ce match du grand Inter de l'époque et d'un grand Barça de Pep Guardiola, de Xavi, Iniesta et Messi.
Oui, c'était un grand Inter, pas au niveau du jeu, c'était une équipe mais champion extrêmement d'Europe. Réaliste, extrêmement réaliste, où même Samuel Eto'o jouait parfois arrière-droit, donc c'est situé un petit peu donc les ambitions offensives qu'il y avait dans cette équipe. Enfin, une équipe extrêmement performante avec une opposition de style complète avec le Barça de cette époque.
Et un match un peu fou ces demi-finales. Hein.
Et je suis pas persuadé qu'aujourd'hui on ait une telle opposition de style entre les deux équipes parce que Barcelone a beaucoup évolué, pas que dans le bon sens en termes de jeu et en tout cas pour ce match-là. Et Il y a une vraie rivalité entre les deux clubs, une vraie possibilité pour l'Inter parce que le Barça pour l'instant n'est pas au mieux.
Oui, effectivement, 9 saisons plus tard, deux équipes qui ont, on peut dire, perdu leur panache quand même, en tout cas par rapport aux commentaires qu'on entendait. L'Inter domine le calcio pour l'instant en attendant, eh bien, ce match face à la Juve qui va un petit peu donner le ton de la saison, peut-être du côté de l'Italie. Le Barça lui tente de retrouver quelque chose. Il y a toujours Piqué, Busquets, Suarez, peut-être Messi. Mais surtout, ils ont intégré un nouveau joueur qui s'appelle Antoine Griezmann, intégré sur les tablettes, sur les publicités, mais sur le terrain, on se demande encore un peu, et l'ancien Colchonero, qui met du temps à s'intégrer, il le reconnaît, s'y efforce, assure-t-il.
Messi ne parle pas beaucoup et moi non plus, donc la communication est parfois difficile entre nous. Mais j'ai partagé le maté avec lui, donc tout va bien. Il a été blessé et il est vrai que sur le terrain, ce n'est pas encore tout à fait ça. Mais je pense que nous sommes de bonnes personnes et je suis là pour aider n'importe qui au sein de l'équipe.
le maté de la paix entre les deux hommes. Est-ce qu'il en fait pas un peu trop? Est-ce que du coup ça se retourne pas un peu aussi contre Griezmann, Étienne?
Oui, il y a parfois des problèmes de communication, Antoine Griezmann. Je pense que c'est un peu maladroit donc de revenir sans cesse. Bah, alors forcément on le questionne.
Ah, oui, voilà, les journalistes, on le questionne, mais bon, on nous connaît.
Il devrait essayer un petit peu de botter en touche parce qu'il explique et avec Messi il se parle pas beaucoup. Bon, c'est un peu embêtant. Il commence à être là depuis un moment. Antoine Griezmann, c'est quand même un grand joueur.
Dire Messi ne parle pas beaucoup, c'est très étonnant de dire ça.
Voilà, donc il faudrait qu'il essaie de sortir de cette impasse dans laquelle on l'a mis. Et la meilleure manière, donc, c'est de réussir à s'intégrer. Mais pour l'instant, le système de jeu du Barça et un peu ses performances individuelles ne favorisent pas son éclosion.
Bruno, est-ce que c'est ça le problème du Barça en ce moment? C'est finalement réussir une alchimie. On voit bien que Griezmann a du mal.
Une intégration en fait au Barça en ce moment. Non, mais c'est vrai, c'est les.
Ils n'ont pas réussi à intégrer Coutinho qui brille. On y viendra tout à l'heure ailleurs.
Il y en a beaucoup qui ont échoué. Hein. S'intégrer au Barça, c'est pas toujours simple.
Hein. Elle est là la problématique en fait. Dembélé, Dembélé, ça vient d'une autre planète, mais c'est pas non plus une super intégration. Coutinho, tu viens de le souligner, c'est pas génial. C'est à un moment donné, on a pris le maté de la paix. Ça fait un peu on a fumé le calumet de la paix.
Symboliquement, c'est ça le maté.
Mais c'est très fort finalement de dire ça aussi, de dire en fait j'essaie de l'amadouer quoi. J'essaie de voir à peu près comment on peut faire pour trouver un modus operandi.
On a quand même l'impression qu'il dit moi je fais des efforts. Par contre, lui n'en fait aucun.
C'est
quand même étonnant. Hein.
Sauf que
dit, je suis prêt à aider tout le monde.
On est quand même avec un dieu du football. C'est-à-dire qu'on a un gars qui est sur son petit nuage et qui regarde les gars arriver en disant bon, toi, t'es mon copain. toi, je te veux. Toi, là-bas, qui est à Paris, tu reviens. Parce qu'en fait, je veux que tu reviennes. Et je m'en fous. Prenez-le. Je veux que mon copain revienne.
À n'importe quel prix,
en foutant un bazar pas possible. Rakitic, dégage, Dembélé, va voir ailleurs. Enfin, c'est un. Et là maintenant, le Barça se dit tiens pourquoi c'est le bazar chez nous. Ils n'arrivent pas à intégrer leurs joueurs et ils
ont foutu le feu pendant tout l'été. Donc le problème du Barça si je te suis.
Non mais quand on est tout puissant, il y a un moment donné, il faut savoir aussi ouvrir la porte, savoir tendre la main. C'est-à-dire que Griezmann n'est pas quand même. Je vais parler comme sur une autre radio, c'est pas bien, mais n'est pas une pompe à vélo, quoi. T'as pas un type qui est nullissime. T'as quand même un bon joueur de football. Donc, si tu lui tends la main et que tu le mets un peu en confiance, il te le rendra, je pense. J'ai l'impression.
Après, le premier responsable, ça reste Griezmann. Avec ce qu'il a fait l'année dernière, avec son histoire de Sekeda, machin, le documentaire pour dire je reste et tout, alors que le Barça le voulait. Ouais. Là, le vestiaire ne voulait pas de Griezmann cet été. Donc, c'est quand même fort. Et à un moment donné, il va falloir qu'il monte d'abord sur le terrain, plutôt que de dire s'aventurer en disant que Messi ne parle très peu, je sais pas. Ouais. Qu'il monte déjà sur le terrain, qu'il se plie au collectif, et puis on verra. Seul le temps peut le sauver, mais ça va être compliqué. Hein.
C'est pour ça finalement que le Barça est pas encore percutant cette saison ou impressionnant, Étienne.
Je pense que la première raison avant l'intégration de Griezmann, c'est les performances de Lionel Messi qui était blessé quasiment tout le début de saison et on sait que ça
on
a toujours
pas
été
pas
le cas.
Si jours à soir. Hein.
Ça a toujours été le cas, mais ça l'est de plus en plus que le Barça est Messi dépendant. C'est à peu près lui
qui
fait tout.
Et que Messi se blesse de plus en plus.
Et oui, comme tous les vieux joueurs, même si c'est pas un très vieux joueur, mais forcément donc plus on avance en âge et plus on a de chances de se blesser, mais bon je pense qu'il faut pas non plus dramatiser. D'abord Messi a su aussi donc intégrer et accepter d'autres joueurs et grands joueurs offensifs. Il l'a fait avec Neymar, je pense qu'il pourra le faire avec Antoine Griezmann.
Oui, mais Neymar était plus jeune, n'avait pas encore de statut, cherchait un statut à ce moment-là.
Non, mais je pense qu'il y a un vrai problème de positionnement sur le terrain. C'est vrai que Antoine Griezmann n'est pas un joueur de couloir, donc le système du Barça on le connaît. Donc Messi en est le dépositaire, donc il va falloir qu'Antoine Griezmann fasse des efforts et réussisse donc à prospérer sur un autre poste que celui dont il avait l'habitude à l'Atlético.
Mais après, pour pas avoir trop la pression du réfé, hein, bien sûr le grand chef ici qui est pas Messi dépendant mais qui aime Messi, donc j'ai un peu peur en fait. Je sais que son bureau est pas très loin et pour
je
revenir,
vous préviendrai.
Voilà, signalez-moi. Mais non, ce que je veux dire par là, c'est que on va pas tout se taper sur Messi, mais c'est peut-être aussi les dirigeants du Barça. De savoir comment ils recrutent, quand tu disais tout à l'heure.
Ils ont forcé
Ils ont forcé la main. Finalement, ils retournent prendre Griezmann, alors que finalement, ça n'allait pas. Ils ont forcé pour Neymar. Finalement, ça n'a pas marché. Enfin, c'est très, très bizarre. Il y a une espèce de flou, quand même, assez artistique.
Et qu'on
de
ressent sur la
Barça. Ça se ressent, effectivement.
Alors, l'Inter, Bruno, on a des Nerazzurri qui sont très vaillants, qu'on retrouve, alors, avec Antonio Conte, qu'on a vu briller, quand même, du côté de Chelsea. Et là, alors, eux, ils ont fait un match nul 1-1 face à Prague. Donc, leur entrée en matière était un peu délicate, mais c'est quand même même une équipe. D'ailleurs, c'est amusant. Il y a Godin dans les rangs, hein, puisque on part à la retraite en Italie souvent maintenant pour les grands joueurs. Et Godin qui est dans ce club, mais surtout, on a une équipe qui est première du calcio.
Ouais, parce que je pense que l'Inter a trouvé l'entraîneur qu'il lui fallait. Comme le dernier grand succès de l'Inter, c'était un José Mourinho qui avait remis de l'ordre dans la maison. Je pense que c'est exactement le même personnage avec Antonio Conte. C'est ce qu'il avait fait à Chelsea. En peu de temps, il avait construit une équipe, une machine qui enchaînait les victoires. Et je pense que l'Inter peut être exactement ça. Et il faut se souvenir que Conte avait déjà joué le Barça avec Chelsea. Et ils avaient fait beaucoup de mal au Barça au match aller, notamment à Stamford Bridge. C'était joué à peu parce qu'ils avaient touché trois fois les montants. Et je pense qu'ils sont capables d'aller créer quelque chose au Camp Nou. Et c'est une équipe qui est puissante, avec un Lukaku qui a beaucoup à se faire pardonner de son passage à United. Donc voilà, il y a des joueurs un peu comme ça, pas revanchards, mais un peu dur à cuire quand même.
Pour terminer, Étienne, c'est vrai qu'en plus dans ce groupe, il y a quand même trois clubs pour deux places, parce qu'on a Dortmund aussi qui a fait match nul avec le Barça. Donc tout le monde est un peu au même nombre de points.
C'est sûr que c'est un groupe plus fort que celui de Lyon qu'on évoque tout à l'heure. Voilà, mais tout ça pour dire que quand même il est possible de mettre très vite une équipe en place. Conte, je suis d'accord avec Bruno, il en est capable à chaque fois, donc ça veut dire que quand on est Lyon, on peut aussi essayer de recruter un entraîneur, peut-être pas de l'envergure d'Antonio Conte, mais en tout cas quelqu'un qui est capable assez vite de mettre une équipe en place et qui n'apprend pas son métier quand il entraîne un club de haut de tableau de Ligue 1 et qui va disputer la Ligue des Champions. Et
on a fait le tour, hein. On a refermé.
Rien demandé à
on a refermé le cercle pour ce qui est des matchs importants pour l'antenne de RFI de la soirée, même si on a un Liverpool qui va disputer un match, mais alors en recevant Salzbourg, Dortmund qui ira à Prague justement, ou Naples encore qui ira à Genk et Ajax à Valence. On revient un petit peu sur la soirée d'hier soir.
Radio Foot International, Annie Gasnier.
Est-ce que rien ne va plus au Real, ou Real va plus, comme disait Devin Fidel ce matin quand on préparait l'émission? Alors, la prestation des Merengues hier soir, fut en deux tons très différents. Et même si les joueurs de Zidane ont su relever la tête pour limiter la casse, on a quand même le sentiment que le mal est fait, que le doute s'est vraiment installé. Même Zinedine Zidane était étonné hier soir.
C'est que notre première 45 minutes qu'on fait très mauvaise, je pense que c'est les pires que j'ai eu depuis que je suis là, de toute façon. Il n'y avait rien, c'est-à-dire que tout on l'a mis en place pour respecter. Et bon, à la deuxième mi-temps, en fait, on a changé. Je reste avec la réaction. La réaction, c'est le point, mais c'est surtout les 45 minutes qu'on gagne 2-0 en deuxième mi-temps.
Une équipe, Dr. Jekyll, Mr. Hyde, qu'on a vu hier soir. Cette équipe qui a 13 trophées dans son armoire. Étienne.
Oui, c'est, on va dire, une début de crise au Real, mais donc la chance qu'ils ont dans ce début de crise, c'est que finalement sur cette poule de Ligue des Champions où le PSG se détache, la deuxième place, elle leur tend quand même encore les bras, parce que
ils passeront en huitième.
Ah, moi, je pense, vu le niveau de la poule, ce qu'on a vu dans les matchs précédents, je pense qu'ils n'auront pas de soucis quand ils iront un tout petit peu mieux. Et puis, il faut quand même pas oublier qu'en championnat, ils sont pas mal encore, le Real. Voilà,
et on sait que c'est l'objectif plus cette année.
Donc, je pense que Zidane et le Real vont s'en sortir.
Bruno, vous avez été surpris par cette prestation?
Surpris par rapport à ce qu'on avait vu face au PSG, déjà tu sentais que c'était pas non plus, ça respirait pas une santé énorme sur la scène européenne. Après là ils se sont fait bousculer, peut-être que c'est vraiment
bousculer, des jeunes, inexpérience, tout ça.
Non mais en fait cette équipe de Bruges, c'est pas une équipe de perdants, en fait c'est des jeunes. Il y a du physique, elle est athlétique, elle est rentrée dedans sans complexe. Elle y est allée.
Et oui. J'ai surtout vu une équipe derrière qui a fait beaucoup d'erreurs défensives. C'était catastrophique. Je sais pas ce qui se passe dans le vestiaire du Real, mais il y a quelque chose qui va pas. C'est pas possible de tomber aussi bas. Et moi, je suis moins confiant qu'Étienne sur le Real, parce que je crois que le prochain match, ils vont à Galatasaray, il semble.
Et c'est juste avant le.
Et après, ils iront à Bruges. Enfin.
Oui. Et
ils vont jouer deux fois
avant
Galatasaray.
Et c'est
après,
juste avant le Classico.
Ils finissent à Bruges. Ils finissent la poule à Bruges. Donc, je pense que ça risque de plus compliqué qu'on ne pense. Ouais.
Alors, on verra ça. La presse anglaise, Bruno, se déchaîne aujourd'hui contre Tottenham, humilié, démoli, détruit, dit-elle, pour parler de cette équipe écrasée 7-2 dans son stade flambant neuf de Londres. Mauricio Pochettino en a ressenti de la honte.
Nous savons tous ce que nous ressentons, nous sommes très déçus et très vexés. Mais gardons notre calme et ne réagissons pas à chaud en désignant facilement un coupable, cela n'arrangera rien.
Faut-il attendre et penser à froid? Pochettino se sent
Pochettino, en tout cas, lui, il a attendu longtemps avant de venir parler parce qu'il s'est enfermé dans le vestiaire avec ses joueurs pendant bien une demi-heure et les murs ont un peu tremblé.
C'était une psychothérapie de groupe.
Ben non, mais il y a beaucoup de choses qui vont pas, et notamment des histoires de contrats, de joueurs en fin de contrat qui sont pas prolongés, qui attendent toujours un signe, comme Vertonghen, comme Alderweireld, comme Eriksen.
Et donc hier, ils ont
non, mais c'est quelque chose qui ne va pas à Tottenham. C'est la plus grosse humiliation d'un club anglais depuis 95. Et devinez qui était ce club-là à l'époque. C'était Tottenham, qui en avait pris 8 déjà. Après, voilà, il faut se souvenir aussi que la saison passée, ça avait très mal débuté pour Tottenham en poule. Ils avaient perdu à l'Inter à 2-1. Ils s'étaient inclinés chez eux face à Barcelone 4-2. Donc c'est quelque chose qu'ils connaissent aussi un peu déjà. Et malgré tout, ils avaient réussi à rebondir. Passer par la petite porte pour se qualifier la dernière journée et au final
on se croyait dans le 7-1 Allemagne-Brésil par instant parce que quand on encaisse 7 buts comme ça. Allez, on va terminer ces dernières secondes de l'émission de Radio Foot et bien quand même en parlant un peu de Paris puisque Bruno rentre d'Istanbul.
Ça revient dans la surface, qui va trouver justement Mauro Icardi pour l'ouverture du score de Paris, l'Argentin qui permet à Paris de mener 1-0 ici.
C'était pas un match passionnant, Bruno, mais l'important est là. Ils l'ont gagné, ce match. Est-ce qu'on en arrive un peu à l'heure, peut-être, d'une équipe équilibrée et donc d'une certaine sérénité du côté du PSG?
C'était pas le match le plus passionnant, effectivement, mais c'est une équipe qui s'est fait mal. Elle a accepté de se faire un peu mal. Elle s'est fait rentrer dedans. Et habituellement, le Paris Saint-Germain qui se fait rentrer dedans, c'est « Wow !» Je vais faire autre chose. Voilà, ils sont pas sur le terrain, ils s'en vont et ils vont faire autre chose pendant 90 minutes. Là, sur le terrain, on a vu 10 garçons, parce que je vais pas parler de la rentrée de Kylian Mbappé qui lui est bien resté au frais pour pas prendre un mauvais coup, mais on a vu quand même des guerriers, des garçons qui ont voulu y aller. Et ça, moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de voir le Paris Saint-Germain qui change un peu d'état d'esprit. C'était pas un match terrible, c'était juste un match très bruyant. Franchement, pour les oreilles, c'était pénible. Mais voilà, c'est une ambiance folle. Galatasaray est une équipe assez mauvaise, moyenne, qui met beaucoup de coups, pas une énorme... J'ai pas trouvé ça génial.
J'ai trouvé meilleur qu'on le disait quand même, moi. Je trouve qu'en deuxième période, ils ont un moment... Par quelques éclairs.
Ouais, parce que le Paris Saint-Germain s'affolait. Mais justement, moi, j'ai bien aimé parce que c'était l'affolement. Et ce PSG qui s'affole, d'habitude, c'est un PSG qui est complètement à la rue, qui fait des bêtises. Et là, on a un Thiago Silva qui est quand même capable d'insuffler des trucs. Des remplaçants qui vont à la... J'ai rigolé tout à l'heure en rentrant dans ton bureau, Annie, en disant, moi, la plus belle action que j'ai vue du match, c'est Ander Herrera qui a tiré le maillot à 50 mètres et qui a pris un carton jaune. C'est ça l'état d'esprit qu'on demande quelquefois au Paris Saint-Germain. Il ne l'avait plus, ça.
Du Thiago Motta.
Voilà, il y a du Thiago Motta. Voilà, mais des mettre des coups un peu. Marquinhos en a mis un peu, Idrissa Gueye en a mis un peu aussi. Et voilà, ils se sont fait un peu mal.
T'as pas aimé le but? Je trouvais le but
magnifique.
Ah
non, il est bien construit. Non, mais il est bien construit.
Ah oui,
ce petit jeu là, c'est sympathique. Oui, la réaction était sympa.
Mais ce qui est rassurant pour le Paris Saint-Germain, c'est qu'ils ont trouvé un milieu de terrain. Je pense qu'aujourd'hui, là, c'est clair. Ils l'ont cherché depuis plusieurs saisons avec retrouver le milieu qu'ils avaient avec Thiago Motta, Verratti et Matuidi. Aujourd'hui, donc, ce milieu à 3, donc, à mon avis, qui va durer toute la saison de Ligue des Champions, donne quand même beaucoup d'assurance. Défensivement, ils sont bons aussi derrière. Et quand rentreront, on peut l'espérer, avec un bon état d'esprit, et Neymar et Mbappé, franchement, il y a de quoi faire. Enfin, on s'est toujours tellement enthousiasmé en phase de poule avec Paris qu'on va quand même être prudent.
Belanda, on a mis une petite, juste pour la petite anecdote, Belanda qui joue à Galatasaray, est-ce que le PSG va gagner la Ligue des Champions cette saison? À la fin, ça lui a été posé comme question. Et il a dit, excusez-moi, mais à chaque fois, on dit ça toutes les saisons et ils ne le font pas. Voilà, histoire d'en mettre une petite.
Ça, c'était le mauvais perdant.
C'était gratuit.
Non, la seule chose qu'on peut peut-être leur reprocher, c'est le manque d'efficacité devant le but. Ils auraient dû tuer le match bien avant. Dès la première période, et on en parlait plus.
Maria
et
voilà,
mais en même temps, il y a tellement de monde sur le carreau offensivement que quand ils vont arriver, voilà, ça en tout cas, il y a peut-être une machine qui est en train de se créer. Et je suis d'accord avec Étienne, le milieu qui est si essentiel en Ligue des Champions, là, ils ont un vrai milieu travailleur de l'ombre.
C'est Ferguson qui avait dit ça, c'est ce que vous nous avez dit dans une émission, c'est ça?
Ah bah oui, c'est le... Hein, oui, c'est
on gagne la Ligue des Champions au milieu, vous voyez, vos citations.
Ah bah les grands auteurs, on les garde toujours.
Et c'est la fin de ce Radio Foot International, première édition. N'oubliez pas donc, rendez-vous à partir de 20h57 sur l'antenne de RFI avec Eric Mamrut ici à Paris, Hugo Moissonnier à Lille, Christophe Diremzian en Allemagne à Leipzig. Et puis 23h10, nous serons là, toute l'équipe de Radio Foot avec David Finzel, avec Laurent Salerno et Pierre Guérin qui nous a aidé aussi à préparer aujourd'hui. À tout à l'heure. RFI.